Vous écoutez, on lit pour vous.
Distrait et dangereux. Un dossier de Chloé Bourquin, Marie-Ève Moras et Daphné Cameron, paru le 6 novembre 2025 dans La Presse. Les récents accidents mortels impliquant des conducteurs de camions qui auraient été distraits par leur téléphone ont choqué. Or, aucun métier, ou presque, ne semble y échapper. Surveillants à la piscine, répartiteurs au 911, éducatrices en garderie, dentistes, travailleurs de la construction, l'appel du cellulaire devient-il une menace à la sécurité? Des travailleurs rivés sur leur cellulaire. Christian, prénom fictif, travaille dans une centrale du 911 depuis une vingtaine d'années. Lorsqu'il reçoit un appel qui nécessite une intervention des services d'urgence, il remplit une carte d'appel que reçoit le répartiteur. Or, il arrive que cette personne soit occupée ailleurs. Des fois, je dois me lever pour demander au répartiteur s'il a vu la carte d'appel. Je le vois scroller. « Il est parti dans son TikTok », dit-il. Christian le concède. Les heures sont souvent longues quand on travaille de nuit. Mais 2-3 minutes d'inattention peuvent tout changer. La presse a demandé à ses lecteurs dans quelle mesure le téléphone nuit à la pratique de certains corps de métier. Une Montréalaise a témoigné qu'à l'été 2025, elle a vu des sauveteurs à la piscine de son quartier consulter leur cellulaire à plusieurs reprises. La semaine suivante, malgré le fait qu'elle avait informé la superviseure, les sauveteurs consultaient toujours leur cellulaire caché dans leur casquette. « Je ne laisse jamais mes enfants aller à la piscine seuls, même s'ils sont de bons nageurs et qu'ils ont l'âge d'y aller », ajoute-t-elle. Une enseignante en technique d'éducation à l'enfance s'inquiète elle aussi pour la sécurité des enfants. Lors de son récent passage dans une garderie privée où elle devait superviser une étudiante, elle raconte avoir eu la mauvaise surprise de voir une éducatrice scotchée à son téléphone pendant que tourbillonnaient les enfants autour d'elle. « Mon cœur a fait un tour », écrit l'enseignante, qui a demandé l'anonymat pour ne pas nuire à ses relations avec les garderies qu'elle visite. Cette personne, censée regarder les enfants, les soutenir, les mettre en valeur, les stimuler et les consoler, ne portait attention qu'à son iPhone, note-t-elle, ajoutant qu'il s'agit d'une situation qui n'est pas unique. Un lecteur qui a demandé à conserver l'anonymat relate, quant à lui, que pendant qu'il se faisait faire un plombage, son dentiste a consulté son téléphone d'une main alors qu'il avait l'autre main dans sa bouche. Au volant de leur autobus, de plus en plus de conducteurs se plongent aussi dans leur cellulaire. Bien que les données ne soient encore que partielles, l'année 2025 s'annonce déjà pour connaître un record de plaintes pour des conducteurs ayant utilisé leur cellulaire au volant dans les autobus de la STM. À la mi-octobre, la société publique en avait déjà enregistré 105 contre une moyenne de 76 plaintes par an dans les 5 années précédentes. Avec un volume de déplacements évalué à 1 million de déplacements par jour, la STM mobilise plus de 3 500 chauffeurs sur son réseau pour assurer son offre de service. Ceci explique, entre autres, les écarts statistiques entre notre organisation et les autres transporteurs, a précisé la STM, la STL et le RTL ayant enregistré respectivement 19 et 33 plaintes jusqu'à maintenant pour 2025. Chaque plainte fait l'objet d'une enquête qui peut aller jusqu'à des sanctions disciplinaires pour le conducteur, ont affirmé les 3 sociétés de transport. Les chauffeurs suivent également des formations et des activités de sensibilisation à ce sujet. 600 millisecondes. Selon l'Institut de la statistique du Québec, en 2020, 47 % des Québécois de plus de 15 ans consultaient leur téléphone intelligent toutes les 30 minutes. Dans son laboratoire Tech 3 Lab, Pierre Majoric-Léger étudie l'interaction entre les humains et la technologie dans un contexte d'affaires. Le professeur de HEC Montréal s'intéresse plus particulièrement au phénomène du multitâche lorsqu'une personne est en mouvement. Il y a amplement d'études en psychologie montrant que lorsque l'on fait du multitâche, on dégrade la performance des deux tâches, la tâche principale et la tâche secondaire. Mais c'est encore pire lorsqu'on marche. Ça s'appelle l'inertie attentionnelle, affirme M. Léger. Le professeur a notamment réalisé des expériences avec des sujets en train d'utiliser leur téléphone sur un tapis roulant. Son équipe a aussi suivi des piétons dans le Vieux-Montréal qui textaient ou qui jouaient à des jeux et a pu déterminer combien de temps il faut avant que le cerveau puisse changer de tâche après s'être déconnecté du téléphone. Les 600 premières millisecondes après que vous sortez de votre téléphone, vous êtes toujours dans le texto que vous avez envoyé et dans l'échange que vous avez eu, explique-t-il. Pour les gens pratiquant des métiers plus risqués, comme les opérateurs de machinerie lourde ou les conducteurs de camions, l'usage de l'écran met la sécurité des autres en danger. En une fraction de seconde, tout peut basculer, littéralement. En 2015, le camion chargé d'un déneigeur de Trois-Rivières a basculé parce que le conducteur textait au volant. Tout juste avant l'accident, l'homme avait texté « Je suis en route, je m'en viens » à une amie et avait filmé son trajet tout en conduisant. Composé avec des employés hyper connectés. Sommes-nous tous devenus accros à notre téléphone? Non, dit Caroline Campeau, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke en prévention des dépendances. On parle d'une utilisation problématique de l'Internet quand la personne atteint un seuil où, cliniquement, on constate des conséquences significatives dans sa vie et qu'il y a vraiment une perte de contrôle, dit-elle. Est-ce que la société vit une hyperconnectivité? Oui, ajoute-t-elle, en rappelant que les applications sont conçues délibérément pour retenir l'attention des utilisateurs. Selon elle, les employeurs devraient avoir une politique interne très claire pour délimiter l'utilisation du téléphone sur les heures de travail. Elle cite l'exemple de camps de jour qui se sont dotés de règles très strictes pour leurs animateurs ou d'employeurs qui ont des travailleurs sur la route. L'employeur peut adopter une telle politique pour une pluralité de motifs, allant de la volonté d'accroître la performance jusqu'au souci de préserver la confidentialité de certains aspects du travail, explique Anne-Julie Roland, experte en droit du travail et chargée d'enseignement de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. On peut avoir une interdiction totale, dit-elle, peu importe le motif, durant les heures de travail. Et à l'autre extrême, on peut avoir une permission complète, tant que ça n'interfère pas avec l'accomplissement des tâches. La ville de Victoriaville a, par exemple, adopté une politique stricte. Elle interdit à tous ses employés d'utiliser leur téléphone personnel en dehors des pauses. Les cols bleus, comme les cols blancs, ne peuvent pas utiliser leur cellulaire lorsqu'ils conduisent. Et les conducteurs de véhicules et d'équipements lourds ne peuvent même pas l'avoir en leur possession lorsqu'ils travaillent. Le syndicat a contesté cette politique devant les tribunaux en 2020, mais le grief a été rejeté, l'arbitre responsable du dossier ayant décrété qu'elle n'était ni abusive ni déraisonnable. De façon générale, Pierre Majoric-Léger observe que certaines entreprises sont très bonnes pour prévenir les risques liés à l'utilisation du téléphone. Il cite l'exemple de CAE, qui a mis des indications par terre dans son usine pour indiquer que ce n'est pas le temps de texter. Et même quand on ne travaille pas en usine, il y a un risque à utiliser son téléphone en se déplaçant. Le nombre d'accidents de gens qui déboulent des escaliers, qui vont se faire mal dans des contextes où ils ne devraient pas être en train de se faire mal, c'est en très grande progression, dit M. Léger. Un fléau dans le réseau de la santé. Les yeux rivés sur son cellulaire, l'auxiliaire de service dépêché par le CLSC s'avance dans l'appartement de l'homme de 91 ans atteint d'Alzheimer. Pendant 30 secondes, elle fixe l'écran de son téléphone sans même lui parler. Puis, elle lui demande où sont ses médicaments. Elle les dépose sur la table et retourne à son cellulaire. En regardant cette vidéo, captée par une caméra de surveillance, Manon Bouchard ressent de la colère. Cet homme, c'est son père. Dès qu'elle est entrée, elle a ignoré totalement mon père, dit-elle en montrant la vidéo de près de 3 minutes à la presse. Elle ne lâche pas son maudit cellulaire. Elle ne lui parle pas. C'est zéro contact avec les yeux. Cette scène s'est déroulée le 29 septembre 2025. Manon Bouchard a pu en être témoin, car elle a installé une caméra dans l'appartement de son père, situé dans une résidence privée pour aînés autonomes à Montréal. Grâce à un capteur sur la porte du logement, elle reçoit des notifications lors des entrées et sorties. Ce n'était pas pour surveiller qui que ce soit. C'était vraiment pour surveiller mon père qui fait de l'errance, explique-t-elle. Le comportement de l'auxiliaire et son absence d'empathie l'ont profondément choqué. Ce jour-là, je suis allée voir mon père en après-midi et j'ai trouvé 2 pilules dans le lavabo et une à terre, raconte-t-elle. Son père n'avait visiblement pas avalé tous ses médicaments. Manon Bouchard a porté plainte au CLSC montréalais. Tu as l'aide du CLSC et tu dois faire un suivi sur l'aide que tu reçois, dit la retraitée de 62 ans. C'est vraiment aberrant. Manon Bouchard appelle son père matin, midi et soir pour lui rappeler d'aller manger à la cafétéria de la résidence. Il aurait besoin, selon elle, d'être hébergé en ressources intermédiaires. Vous écoutez « Distrait et dangereux », un dossier de Chloé Bourquin, Marie-Ève Maurras et Daphné Cameron, paru le 24 septembre 2025 dans La Presse. Il y en a beaucoup qui abusent. Des proches aidantes, comme Manon Bouchard, ont récemment dénoncé à La Presse l'utilisation abusive du cellulaire par du personnel de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Des employés du réseau public s'élèvent maintenant contre ce phénomène qu'ils qualifient de fléau. Au centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, un préposé à l'hygiène et à la salubrité affirme que des collègues regardent des vidéos sur leur téléphone cellulaire cachées dans l'entrepôt d'équipement ou dans des chambres qu'ils devraient désinfecter. Je ne dirais pas que c'est une majorité de mes collègues qui abusent du cellulaire, mais il y en a beaucoup, dit l'employé, qui veut garder l'anonymat par crainte de sanctions de son employeur. Il a pris sur le fait un collègue qui avait été affecté au nettoyage d'une chambre 45 minutes plus tôt. La porte était fermée. Le rideau cachait ce qui se passait à l'intérieur de la chambre. Je rentre et tout ce que je vois, c'est un gars qui est assis dans le fauteuil en train de regarder un film, dit-il. Rien n'avait été nettoyé, selon lui. Ce qui se passe la plupart du temps, soutient-il, c'est qu'ils vont bâcler le nettoyage très vite pour faire un genre de petit survol très rapide pour que ça ait l'air beau. Ce préposé déplore le manque de supervision sur le plancher. C'est plate qu'on doive traiter des adultes comme des bébés. Mais vient un moment où, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Un chirurgien de l'hôpital régional de Rimouski croit qu'il faudrait carrément interdire l'utilisation du cellulaire personnel dans les unités de soins, comme celle de chirurgie. Selon lui, des employés regardent régulièrement leur cellulaire au poste des infirmières, mais pas au chevet des malades, précise-t-il. Je pense sincèrement que le personnel gagnerait en concentration, en temps offert à la clientèle, et qu'il y aurait une diminution des erreurs de soins, dit-il. Politique sur le cellulaire. La presse a demandé à la trentaine d'établissements de santé du Québec s'ils possèdent une politique sur l'utilisation du cellulaire par les employés. La moitié n'en ont pas. C'est le cas du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal qui affirme que des rappels ponctuels sont faits au besoin afin de rappeler aux employés les bonnes pratiques entourant l'utilisation du téléphone sur les heures de travail. D'autres établissements, qui n'ont pas de politique, s'appuient sur leur code d'éthique. Dans cet esprit, certaines attentes sont formulées à l'égard des employés, écrit le CIUS de l'Estrie, CHUS. Par exemple, les appareils de communication personnelle, comme les téléphones cellulaires, iPods et iPads, doivent être rangés hors de la zone de travail afin de préserver la qualité des soins et services offerts. L'utilisation de ces appareils demeure permise dans les salles de repos, les entrées et les cafétérias pendant les périodes de pause. Parmi les établissements ayant une politique, certains recommandent d'éviter l'utilisation du cellulaire à des fins personnelles. D'autres le permettent uniquement lors des pauses ou l'autorisent si cela ne nuit pas à la prestation de travail. La politique du CHUM, elle, indique que les employés, les gestionnaires et les médecins peuvent utiliser les cellulaires uniquement dans le cadre d'activités reliées à leur travail. Toutefois, une utilisation raisonnable à des fins personnelles est autorisée si elle n'entrave pas le bon déroulement des activités, précise-t-on. Invitée à réagir à l'abus du cellulaire par des employés, le CHUM répond que les gestionnaires sont présents sur le terrain et interviennent lorsqu'un usage inapproprié est observé. Ces équipes travaillent à la mise à jour de la politique actuelle qui entrera en vigueur sous peu et permettra d'encadrer encore mieux les pratiques et de soutenir les gestionnaires dans leur rôle de supervision. Le syndicat des employés du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, lui, n'a pas souhaité faire de commentaires, rappelant que les dossiers de ses membres sont entièrement confidentiels. Avis d'un expert. Xavier Parent-Rochelot, professeur agrégé de HEC Montréal, estime que les établissements de santé devraient se doter d'une politique sur l'utilisation du cellulaire personnel. Ça peut vite devenir ingrat comme gestionnaire de dire aux employés « tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone », dit l'expert en ressources humaines qui s'intéresse au numérique et à l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Il ne faut pas que ce soit variable d'une équipe à l'autre. Par exemple, une infirmière chef le permet de jour et celle de soir ne le permet pas. Selon lui, cette politique doit être claire et raisonnable dans le contexte. L'approche mur à mur, c'est-à-dire une interdiction unilatérale de l'appareil personnel sur les heures de travail, n'est peut-être pas ce qui est souhaitable dans toutes les situations, pense-t-il. C'est bénéfique même pour nous. Bien que les enseignants soient exemptés de la directive ministérielle sur l'interdiction du cellulaire à l'école, ils sont tout de même invités à donner l'exemple. Et certains se font un devoir de s'imposer un sevrage technologique dont les résultats sont positifs. Les élèves se parlent plus entre eux. Et là, nous aussi, on se parle plus, parce qu'on fait plus attention, constate Justine, qui enseigne l'histoire dans une école secondaire de Joliette. Les prénoms des enseignantes sont fictifs. Les membres du personnel scolaire s'expriment généralement sous le couvert de l'anonymat, par crainte de représailles de leur employeur. Ce n'est pas d'hier que les enseignants utilisent leur cellulaire avec parcimonie, souligne-t-elle. Cependant, le personnel scolaire a bien pris acte du tour de vis entré en vigueur à la rentrée des classes. On se met nous-mêmes des barrières, poursuit Justine. Ce n'est pas un problème, c'est simplement qu'il faut réapprendre d'autres réflexes. Et je dirais que c'est bénéfique, même pour nous, car on a tous développé une forme de dépendance. Elle concède que les alertes des applications mobiles des médias lui manquent. Je suis prof d'histoire, alors on faisait toujours un peu d'actualité, donc ça m'a restreinte un peu dans cette façon de procéder. Là, ça va en fin de journée, ou sur l'heure du midi. De son côté, Marie-Claude ne dégainait jamais son cellulaire en présence d'élèves. « J'ai toujours été professionnelle avec mon téléphone. Il est en classe avec moi, mais bien rangé dans mon sac à main, dans un tiroir de mon bureau », explique-t-elle. Les enfants de la professeure de physique savent que le téléphone est réservé aux appels d'urgence. S'ils tentent de la joindre, elle laisse le répondeur faire le travail et rappelle pendant ses pauses, à l'abri des regards des élèves, dans un local fermé. Les échos du terrain indiquent que l'adaptation se déroule sans anicroche, dit Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, AMDES. En fait, ce n'est pas un grand changement. Et là où il y a peut-être quelque chose de nouveau, c'est qu'on va demander une certaine discrétion aux enseignants qui y sont dans l'école, mais pas en présence d'élèves, précise-t-elle. Et derrière les portes closes? Qu'en est-il dans ce lieu mystérieux que représente le salon des enseignants? Autour de la machine à café? De la table du dîner? Entend-on le bruit des conversations? Ou celui des doigts qui pianotent sur les écrans des cellulaires? Les jeunes enseignants semblent toujours aussi accrochés aux réseaux sociaux, selon ce qu'a observé Justine à ce jour. Ça, pour moi, ça a toujours été un irritant. Mais ça arrive quand même moins souvent, lance-t-elle presque comme un souhait. Les appareils demeurent omniprésents lors des réunions du personnel, relève pour sa part Marie-Claude, qui enseigne sur la rive nord de Montréal. « Je vois les téléphones autant qu'avant », témoigne-t-elle. « Certains collègues n'ont jamais été très professionnels à ce sujet, et ne le sont toujours pas. Et ce sont souvent les mêmes qui arrivent en retard », conclut-elle, en soulignant que, pour l'heure, les élèves s'habituent étonnamment bien à la vie sans cellulaire. Je m'attendais à passer beaucoup de temps à les gérer. Mais pas du tout. La majorité des élèves le laissent dans le casier. Certains l'ont probablement dans leur poche, mais ne le sortent pas devant nous. Je n'en vois jamais, se réjouit-elle. C'était « Distrait et dangereux », un dossier de Chloé Bourquin, Marie-Ève Moras et Daphné Cameron, paru le 6 novembre 2025 dans La Presse.
La perte d'appétit, comment retrouver le goût des repas? Un texte de Joanne Martin, paru le 22 août 2025 dans Virage. Pour vous, l'heure des repas ressemble à une corvée? L'appétit se fait rare? Lassitude, solitude, deuil, douleur ou effet secondaire de médicaments peuvent expliquer ce manque d'envie. Pourtant, bien s'alimenter reste essentiel pour la santé. Voici quelques pistes. La perte d'appétit est fréquente avec l'âge et ses causes sont multiples, physiologiques, psychologiques, sociales ou médicales. Citation. On va vérifier, par exemple, si un nouveau médicament est en cause ou encore si un deuil a affecté le moral. Dans la sphère sociale, on sait que plus on est isolé, moins on a d'appétit, explique Michel Sancartier, nutritionniste et professeur à l'Université de Montréal. Identifier la cause est important, car sur le long terme, cette perte d'intérêt peut entraîner la dénutrition, une perte de poids et une baisse de la qualité de vie. Le casse-tête des régimes. Le spécialiste souligne que beaucoup de personnes aînées suivent un régime restrictif, sans sucre, sans gras, sans sel, mais ce sont souvent ces ingrédients qui donnent du goût. Trop de restrictions nuisent à l'appétit. D'où l'importance de les faire réévaluer par un ou une professionnelle de la santé pour ne garder que l'essentiel. Citation. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'augmenter la densité énergétique, c'est-à-dire d'intégrer plus de calories par bouchée. Fin de citation, poursuit-il. Par exemple, en utilisant des protéines en poudre, du beurre et du bon gras. Plusieurs petits repas par jour et des collations nutritives, fruits, noix, yogourt, peuvent aussi aider. Soigner la présentation peut également creuser l'appétit. Le plaisir de manger. Citation. Il faut associer de nouveau les aliments au plaisir. Fin de citation, insiste Michel Sancartier. Retrouver les recettes d'autrefois, comme la soupe maison que concoctait notre mère, peut redonner le goût de manger, tout comme prendre les repas en bonne compagnie, loin des distractions. Un peu d'activité physique comme une promenade, des étirements ou du jardinage peuvent aussi ouvrir l'appétit tout en faisant du bien au moral. Et si, malgré tout, le manque d'appétit persiste ou s'accompagne d'une perte de poids significative, il est essentiel d'obtenir une évaluation médicale. C'était « La perte d'appétit, comment retrouver le goût des repas? » Un texte de Joanne Martin paru le 22 août 2025 dans Virage.